Les sciences et l'Afrique, l'Institut Henri Poincaré à Paris accueille aujourd'hui et demain la deuxième édition des rencontres des jeunes scientifiques originaires des pays d'Afrique subsaharienne. Ils sont venus effectuer une grande partie de leurs études supérieures en mathématiques et en physique dans notre pays. Et ces rencontres visent justement au développement d'une recherche de haut niveau sur le continent africain. Le mathématicien Cédric Villani est l'invité de La Tête au Carré avec à ses côtés trois scientifiques venus d'Afrique. Et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions pour en discuter sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une hécatombe pour les coraux de la Grande Barrière de Corail en Australie.
Deux tiers des coraux de la partie nord de la Grande Barrière de corail ont péri en moins de 9 mois. On se croirait dans un cimetière, c'est ce que dit le directeur du Centre d'excellence pour les études sur les récifs coralliens en Australie à propos de ce nouvel épisode de blanchissement record, et on en parle avec le professeur émérite Bernard Salva.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de santé polémique de Dominique Dupagne consacrée cette semaine au retour du scorbut en Australie. Et puis au cours de l'émission, vous entendrez également une petite chanson bonus offerte par Frédéric Fromet à l'occasion de la soirée des 10 ans, c'était hier, de La Tête au Carré. Stéphanie Texier réalise l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dans quelques minutes, donc, le dossier avec des jeunes chercheurs africains à Paris pour des rencontres aujourd'hui et demain à l'Institut Henri Poincaré. Pour en parler, je reçois son directeur Cédric Villani, accompagné de trois chercheurs. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Cédric Villani, l'Afrique qui rime donc avec mathématiques, entre autres, hein, pendant 2 jours à l'IHP. C'est un moment important pour le développement justement des sciences sur ce continent?
Oui, nous croyons beaucoup dans l'importance extraordinaire sur le long terme du développement des sciences en Afrique, et une partie de nos évolutions institutionnelles de ces dernières années est aussi tournée dans cette direction à travers le partenariat avec des organismes tels que le Centre international de mathématiques pures et appliquées ou des associations comme l'Association pour les sciences en Afrique que nous hébergeons.
Odette Fokapou, Paul Wafo et Sename Kofi, vous venez donc respectivement du Cameroun et du Togo. Qu'est-ce que vous venez chercher au fond pendant ces 2 journées à l'Institut Henri Poincaré? Odette Fokapou, vous qui vivez en France, hein, vous êtes en France depuis très longtemps maintenant. Qu'est-ce qui se passe alors pour vous? C'est un moment important justement d'échange.
Bonjour, merci. C'est une grande occasion pour nous de montrer aux jeunes chercheurs qu'il est important pour eux de se rencontrer déjà, de se connaître et de présenter leurs travaux qui généralement sont de très bon niveau. Nous allons, pendant ces 2 jours, évoquer les sciences expérimentales en Afrique. En Afrique, il y a des difficultés pour enseigner les sciences expérimentales parce qu'il manque de matériel, il manque des dispositifs. Mais cependant, on se rend compte qu'avec l'évolution des nouveaux outils, le numérique, on arrive maintenant à fabriquer des chaînes de mesure, à fabriquer des dispositifs qui peuvent très bien être utilisés dans les lycées pour faire des travaux pratiques et même dans les laboratoires de recherche.
Paul Wafo, en tant que professeur de physique, beaucoup de difficultés justement en Afrique pour travailler avec du matériel, par exemple, tout simplement, pour de l'expérimentation.
Oui, beaucoup de difficultés à cause de la croissance très rapide des effectifs des étudiants. Dans les domaines scientifiques et dans tout autre domaine. Et ça, c'est un constat dans presque dans l'ensemble des pays africains. La croissance est très rapide. Les moyens mis en place par les gouvernements ne sont pas suffisants. Ce qui fait donc l'encadrement sur le plan pratique et même sur le plan théorique est assez délicat.
C'est l'effet Kofi, les sciences du numérique, ça vous intéresse au premier chef, justement?
Oui, mais plus globalement, en fait, moi, je représente quelque chose qui questionne un peu l'université, qui interroge l'université, qui challenge l'université, qui complète peut-être l'université et par rapport auquel l'université doit se positionner, qui est toute cette mode de laboratoire ouvert,
Fab Lab,
etc.
Ouais, on va en parler avec vous donc au cours de l'émission et puis de vos travaux respectifs autour des sciences africaines et de leur promotion avec les messages des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, les coraux toujours plus menacés dans la Grande Barrière en Australie.
La Grande Barrière forme le plus grand organisme vivant du monde. 400 espèces de coraux, 1500 spécimens de poissons, 4000 variétés de mollusques.
Et après les épisodes de blanchissement de coraux à grande échelle en 98 et 2002, eh bien la grande barrière de corail en Australie enregistre de nouvelles pertes. Elles sont très lourdes. Sa partie nord a été dévastée sur une distance de 700 km. C'est un tiers de sa longueur totale. 67% des coraux qui ont péri en moins de 9 mois. C'est ce que révèlent les scientifiques du Centre d'Excellence pour les études sur les récifs coralliens en Australie. Bonjour Bernard Salva.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes professeur émérite à l'école pratique des hautes études. Est-ce qu'on peut dire que 2016, c'est l'année noire pour la grande barrière de corail en Australie?
Oui, parce qu'il y avait déjà eu des années noires pour la grande barrière en 98 et en 2002. Mais cet épisode-là semble encore plus tragique parce que 65% de coraux morts dans la partie nord, c'est quand même énorme.
Ils sont morts parce qu'on parle souvent de blanchissement, mais blanchissement, c'est une maladie, ils ne meurent pas systématiquement ?
Non, pas nécessairement. Le communiqué d'ailleurs de nos collègues australiens est très clair. Ce sont des coraux qui ont blanchi et qui sont morts. Ça signifie simplement que quand la température est un peu trop forte, les coraux perdent leur couleur par suite du départ des algues symbiotiques qu'ils hébergent dans leur tissu. Et à ce moment-là, le corail devient blanc. Mais il n'en est pas mort pour autant. Et si le stress de température dure trop longtemps ou est trop fort, à ce moment-là, les coraux peuvent mourir. Et c'est ce qui s'est passé sur la grande barrière de corail cette année.
Et il faut un certain temps pour que ces récifs récupèrent par la suite, pour que de nouveaux coraux émergent ?
Bien écoutez, quand les récifs et les couvertures coralliennes sont mortes, de l'ordre de 60 à 70%, il faut attendre à peu près une dizaine à une douzaine d'années pour que d'autres coraux s'implantent et deviennent aussi florissants qu'avant. Seulement, bien entendu, entre-temps, il ne faut pas qu'il y ait un nouveau phénomène de blanchissement et de mortalité.
Bernard Salva, quels sont les principaux facteurs de stress justement pour ces coraux et qui expliquent cette situation assez catastrophique ?
Ben écoutez, il y a deux facteurs de stress qui sont essentiels. D'abord, c'est les activités de l'homme. Hein, on a perdu à peu près 15% des récifs coralliens à la surface de la planète. Et ça, c'est dû à des phénomènes de dégradation dus à l'activité humaine, soit les destructions de récifs quand on construit des aéroports sur les récifs frangeants, soit simplement les pollutions. Ça, c'est le premier facteur de stress qui est donc humain pour les récifs coralliens. Et puis, il y a aussi des stress qui sont naturels, qui reviennent occasionnellement, mais qui se multiplient un petit peu avec le changement climatique, car le principal stress, c'est une élévation de température anormale de l'eau océanique.
Combien de degrés dans cette région en particulier ?
Oh, écoutez, il faut que généralement, les coraux prospèrent aux environs de 28 degrés. Mais si la température dépasse 29 degrés dans ces zones-là, à ce moment-là, les coraux sont en danger et ils blanchissent. Donc il suffit de 1 à 2 degrés au-dessus des températures estivales pour que ces phénomènes se déclenchent.
C'est un peu comme l'être humain finalement.
Oui, tout à fait. Et un peu comme nous quand on a 37 degrés ou quand on en a 40. À 37, on n'est pas bien, il vaut mieux se mettre au lit. Et puis, si ça dure trop longtemps, ben, à 40 degrés et 41, ben, on passe à marre gauche.
Et quelles sont les répercussions de la disparition de ces coraux sur l'écosystème marin ?
Mais étant donné que le corail est le principal constructeur de l'habitat corallien, autour de quel gravite toute la faune, hein, vous disiez tout à l'heure dans le reportage qu'il y avait des centaines et des milliers d'espèces, sur la grande barrière de corail, en comptant tous les invertébrés qui y vivent et les vertébrés, ça doit approcher à peu près 50 000 espèces, à peu près, en comptant les petits et les gros. Par conséquent, quand l'habitat disparaît, évidemment, la faune disparaît, et tout particulièrement les poissons.
Mmh. Le fait que les océans absorbent des quantités de plus en plus grandes de CO2, peut-il nuire aussi à ces récifs coralliens ?
Oui, parce que vous avez, avec l'absorption du CO2 dans la masse océanique, vous avez un phénomène d'acidification. Donc, alors, il faut bien s'entendre, ça ne veut pas dire que l'océan va devenir acide. Hein, et il est toujours basique, avec son pH qui est aux environs de 7,2, 7,4. Mais ce pH va diminuer un petit peu, et on considère que la diminution du pH rendra la calcification des coraux plus grande, c'est-à-dire qu'ils auront plus de mal à construire leur squelette calcaire, ce qui est indispensable.
Oui. Mm-hmm. Bernard Salva, cette menace, elle est récente sur les coraux et ce phénomène d'accélération là qu'on observe depuis quelques années, il vous inquiète beaucoup ?
Mais écoutez, vous avez tout dit dans votre question, parce que cette menace n'est pas récente, mais elle s'accélère, et c'est ça qui est dangereux. Parce que les phénomènes de blanchissement suivis de mortalité ont toujours existé. Il y a eu des phénomènes El Niño, où la température est plus chaude, et qui ont déclenché, dans le passé, dans les siècles passés même, qui ont déclenché des phénomènes de mortalité. Le problème, c'est que l'océan se réchauffe, les phénomènes El Niño sont quand même de plus en plus nombreux depuis une cinquantaine d'années, et par conséquent, ces phénomènes de blanchissement se multiplient.
Merci beaucoup en tout cas Bernard Salva, et puis évidemment toute l'attention sur cet écosystème marin extrêmement précieux, on l'a compris, et qui suscite l'inquiétude des scientifiques qui tirent donc la sonnette d'alarme à l'occasion des dernières observations. Merci beaucoup à vous Bernard Salva.
Merci.
Et Agnès, vous restez avec nous parce
avec
que
plaisir,
l'Afrique vous intéresse beaucoup,
oui.
Et ce sera l'occasion d'en discuter avec nos invités dans quelques minutes. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les eaux de Lucie qui continuent de parler, la plus célèbre des ancêtres de l'humanité, passait un tiers de son temps dans les arbres où elle se réfugiait pour échapper aux prédateurs. C'est ce que dévoile une étude parue dans la revue PLOS ONE. Grâce à une nouvelle analyse des restes de son squelette, vieux de 3,18 millions d'années, bien les chercheurs ont pu établir que ses membres supérieurs étaient très développés comme ceux des chimpanzés, idéal pour grimper dans les arbres où elle passait probablement ses nuits. Des bactéries fossilisées vieilles de 2,5 milliards d'années découvertes sous une couche de roche en Afrique du Sud, elles attestent une nouvelle fois d'une forme de vie à une période où l'atmosphère ne contenait pas encore d'oxygène. Ces microbactéries représentent les plus anciens organismes connus vivant en eau profonde. C'est ce qu'explique l'un des auteurs de la publication parue dans Geology. Elles préexistaient donc aux plantes et aux arbres, apparues il y a 450 millions d'années, et pourraient nous aider à dérouler le fil de notre longue histoire. Et puis aujourd'hui, 1er décembre, c'est, vous le savez certainement, la journée mondiale de lutte contre le sida. En 2015, le virus a causé la mort de plus d'un million de personnes dans le monde, tandis que 2,2 millions de personnes ont été infectées. Le problème, c'est que la moitié de ces individus ignorent avoir été contaminés. Cette journée est donc l'occasion d'informer, mais également de soutenir les opérations de prévention ou de recherche. L'année dernière, SIDAction a appuyé une centaine de projets en recherche fondamentale, clinique et sociale. Et bien sûr, vous pouvez faire vos dons. C'est l'occasion en particulier aujourd'hui en vous rendant sur sidaction.org. Allez, les sciences en Afrique, notre dossier dans un instant.
Best to you. Do you really want to?
I can't be the only one.
Best to you, Blood Orange à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Des jeunes chercheurs africains donc en France en ce moment pour deux journées organisées aujourd'hui et demain par l'Institut Henri Poincaré à Paris. Pour en parler donc son directeur Cédric Villani, trois scientifiques du Cameroun et du Togo. Odette Fokapo, hein, vous êtes professeur de physique biomédicale, c'est ça?
Je suis chercheur en biomédicale, je suis professeur de physique appliquée, traitement du signal dans un département de l'Université d'Amiens, de l'IUT de l'Aisne, département d'ingénierie électrique, informatique industrielle de l'IUT de l'Aisne.
Et vous êtes originaire du Cameroun, hein. Vous faites partie du comité d'organisation justement de ces rencontres et vous êtes très engagé, on va le voir. Vous faites un nombre de choses absolument incroyables hein, dans des actions de coopération avec les universités africaines. Paul Wafou, vous êtes professeur de physique.
Oui.
Et vous travaillez à l'université Yaoundé 1.
C'est ça.
Au Cameroun. Ouais. Et Sename Kofi, vous êtes chercheur en architecture et en anthropologie. Alors c'est amusant d'associer ces deux disciplines, vous avez mené vraiment ces deux recherches parallèlement?
Oui. D'abord l'architecture, et en architecture j'ai voulu faire du vernaculaire, c'est-à-dire m'inspirer de l'ancien pour faire du moderne et construire si possible avec les populations.
Ouais.
Et là je me suis rendu compte qu'il fallait être anthropologue pour bien comprendre ces populations-là, si on voulait vraiment saisir l'essence de ce qui fait l'architecture. Donc, je suis passé en anthropologie après.
Donc, la culture indispensable pour concrètement aussi appliquer.
Exactement. Enfin, l'architecture, ce n'est que la projection au sol de systèmes de pensée où il y a de la parenté, il y a du rite, etc.
Ouais. Et vous avez créé donc ce Fab Lab Wuelab. C'est son nom, hein, à Lomé, donc au Togo, et vous allez nous en parler à l'occasion donc de votre venue ici à Paris. Cédric Villani, vous connaissez bien l'Afrique, hein, vous y allez souvent depuis la médaille Fields en particulier pour vos actions de promotion des maths. Hein.
Oui, tous les ans et même déjà un peu avant la médaille Fields. Parmi les personnes qui m'ont introduit en Afrique, deux ont joué un rôle particulièrement important. Il y avait mon collègue de recherche Wilfried Gangbo, d'origine béninoise, en poste en ce moment à Los Angeles. Et puis il y avait Vincent Rivasso, un chercheur internationalement reconnu en physique mathématique, très impliqué auprès de l'Institut Henri Poincaré, très impliqué pendant longtemps aux côtés de Neil Turok dans le projet AIMS, African Institute of Mathematical Sciences, et cofondateur de l'APSA, association qui organise au sein de l'Institut Henri Poincaré les journées que nous voyons aujourd'hui.
Donc vous portez beaucoup d'attention sur ce continent ?
Énormément d'attention. D'abord, c'est un continent dans lequel il y a des ressources et un potentiel extraordinaire. Il faut bien avoir conscience que dans quelques décennies, l'Afrique, ça sera le réservoir de jeunesse et d'étudiants du monde entier. Pour des questions démographiques, c'est l'explosion en cours. Je vois que le collègue
Paul,
de Yandé...
Paul Wafou.
La croissance est assez rapide. Quand je prends le cas de mon université, chaque année, en sciences, dans les domaines scientifiques, on a près de 7000 étudiants qui entrent chaque année à l'université.
Et là, les chiffres vraiment sont croissants?
Très, très croissants.
De plus en plus d'inscriptions?
Oui.
Ouais.
Oui.
Odette?
Oui, c'est vrai qu'il y a une croissance démographique très importante, mais il faut aussi remarquer que l'Afrique ne représente que moins de 2% de la contribution scientifique au niveau mondial et qu'il est très important de promouvoir les sciences en Afrique. Il y a des têtes en Afrique, il y a des étudiants qui ont vraiment les capacités, mais il leur manque des moyens. Et à l'APSA, ce que nous aimerons vraiment apporter à l'Afrique, c'est permettre aux Africains sur place d'avoir les moyens de travailler, de promouvoir la recherche et de publier comme ils en ont vraiment envie.
Oui, c'est ça, parce que Cédric Villani, il y a énormément justement d'étudiants africains qui viennent travailler en France pour des doctorats ou des post-doctorats. Hein.
Qui viennent travailler en France pour des doctorats, des post-doctorats, c'est une opportunité, un potentiel considérable maintenant et pour l'avenir, pour la France. On le dit souvent, mais il faut le dire encore et encore, d'ici quelques décennies, la francophonie, ce sera avant tout une question africaine. Peut-être entre 80 et 90% de la francophonie sera africaine, ce qui veut dire qu'il y a, en fonction de la façon dont la France s'engage dans cette communauté, il y aura des opportunités extraordinaires au 21e siècle pour le développement d'une communauté francophone scientifique de très grande ampleur.
Ouais, Odette Fokapo, justement, les mathématiques et la physique, ça fait partie vraiment des disciplines très dynamiques aujourd'hui dans les sciences africaines.
Oui, tout à fait. Les mathématiques sont la base de tout. Donc, que ce soit en Afrique ou en Europe, les mathématiques et la physique, c'est la base de la technologie moderne. Nous comptons faire avancer beaucoup plus les sciences expérimentales, parce que c'est à partir de la physique expérimentale qu'on pourra réaliser des dispositifs de haute technologie qui devraient aider l'Afrique à combler l'écart qu'il y a actuellement entre les pays industrialisés et l'Afrique. Donc actuellement, on compte à peu près un ingénieur pour 10 000 habitants en Afrique, alors qu'en dans les pays industrialisés, c'est beaucoup plus, c'est entre 20 et 50.
Donc tout est ouvert.
Voilà, tout est ouvert, mais on est très optimiste. On est très optimiste.
Absolument,
parce que,
et c'est cette voie-là que vous avez envie de faire entendre.
Donc avec les Fab Labs, les outils open source, le numérique, comme par exemple la plateforme Arduino, autour duquel nous allons monter un beau projet de physique expérimentale devrait nous permettre de rester optimistes et d'avancer.
Dans quel domaine de la physique expérimentale, Paul Wafo, justement?
Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les Africains peuvent travailler. C'est-à-dire qu'il faudrait juste tenir compte de la contrainte de coût de l'équipement à mettre en place.
Oui.
Et puis, l'intérêt du projet expérimental pour l'environnement africain.
Alors justement, c'est la mécanique.
Tenir compte de l'écosystème aussi et des problématiques africaines. Parce qu'il arrive qu'on envoie en Afrique du matériel très sophistiqué d'ailleurs, qui est très cher, qui forcément n'est pas utilisable, n'est pas adapté.
Oui, utilisable. C'est la Kofi, justement, le Fab Lab, c'est une façon d'expérimenter, de faire de la science à un coût moindre, on va dire.
Oui, c'est surtout des lieux ressources où on peut hacker, c'est-à-dire se développer des outils à sa portée quand le modèle est trop cher, essayer de voir comment, avec des ressources de la proximité ou des ressources qu'on puise un peu plus loin via tout ce savoir qui est en open source, justement, sur Internet, on peut essayer de refabriquer des choses, détourner des choses et accoucher d'outils qui peuvent servir et qui ne sont peut-être très, très, très moins coûteux par rapport à ce qui serait importé.
Ouais. Voilà, y compris des objets technologiques qui coûtent moins cher. Vous prenez le téléphone portable, il y a une technologie assez sophistiquée à l'intérieur, et puis on pourrait y retirer des composants pour faire des montages.
Non, le recyclage électronique est très important.
Le recyclage aussi.
Et l'exemple, c'est justement la première imprimante 3D qui a été réalisée dans le Fab Lab fondé par Sename Kofi.
Ouais. Donc la science durable aussi, hein, évidemment. Cédric Villani.
Oui, j'ai insisté sur cette question. Il y a des problématiques qui se posent en Afrique de façon très importante, qui sont aussi souvent des motivations supplémentaires sur certains sujets. Par exemple, le fait qu'il y a que ça manque de façon générale d'infrastructures pour les transmissions de réseaux et d'Internet a abouti au développement d'outils, de solutions réalisées par téléphone portable ou à la motivation de projets d'Internet par développe Google X.
Avec un taux de pénétration du téléphone mobile très très élevé en Afrique.
Oui, très élevé. Tout le monde est ultra connecté d'ailleurs.
Ah, tout à fait.
La 4G a explosé.
On sait que certaines activités emblématiques d'Orange en Afrique sur le secteur de la banque, par exemple, ont été motivées par le très faible taux de bancarisation du continent.
C'est ça.
Donc ces contraintes supplémentaires agissent aussi comme des moteurs de développement d'innovation.
On parle d'ailleurs de cette stratégie de leapfrogging, de saut de mouton. Justement, la banque, les utilisateurs n'ont pas encore accès à la banque, mais ils y ont accès par leur téléphone portable.
Faites des transferts.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça où on voit qu'il y a des sauts de mouton, des bonds en avant technologiques?
Oui, si vous le permettez. Dans le domaine même de la santé, hein, aujourd'hui, nous avons des applications qui sont développées sur smartphone qui permettent aux médecins de faire la surveillance des femmes enceintes. De loin, la femme est chez elle et chaque fois, elle est en communication avec le médecin.
La médecine à distance, donc ça fonctionne bien aujourd'hui avec les outils. Ouais. Cédric.
La médecine à distance, c'est absolument vrai. Et aussi des questions de développement à bas coût, de projets technologiques, justement dans la culture open source et Fab Lab dont on parlait il y a quelques instants. Par exemple, un des projets qui était présenté récemment dans notre colloque Oxygène du numérique monté par cet écosystème de Fab Lab. C'est un projet de sonde, un projet de d'échographie à très bas coût, fait avec qui puisse se porter dans des environnements où la question de femmes enceintes et d'accouchement sont encore génératrices de beaucoup de décès et dans lesquels il y a un besoin de développer de nouvelles solutions.
Ça dit quelque chose aussi justement de la nature humaine, Senafé Kofi, c'est-à-dire qu'en Afrique aussi, cette question de la durabilité et de la créativité aussi est extrêmement forte. C'est-à-dire que ça sert à rien effectivement d'envoyer des équipements ultra chers, alors qu'on sait faire les choses autrement, avec une plasticité très forte aussi dans les esprits.
C'est ça.
Exactement, oui, il y a cette culture de la débrouille qui existe, qui va être de plus en plus, en quelque sorte, accélérée ou très reprogrammée avec l'explosion démographique dont on parle, etc. Et qui aujourd'hui a des outils de sa professionnalisation, avec donc cette petite révolution numérique, tous ces plans qui sont partagés en open source, et qui donc peut donner des choses très intéressantes si on en fait un vrai process d'innovation.
Ouais. Allez, on va se retrouver dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent donc sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et puis on va refaire un petit tour par le studio 104, Cédric Villani, où nous étions hier soir ensemble d'ailleurs. Vous nous avez fait une très belle lecture, qu'on peut voir d'ailleurs en vidéo sur franceinter.fr, pour les 10 ans donc de la tête au carré, c'est 2 heures d'émission avec une incroyable brochette de scientifiques. Alors, n'a pas été diffusée hier une séquence qui était consacrée aux passeurs de science, avec entre autres François de Closet, Michel Chevalet, Anna Bougrain-Dubourg et la génération des youtubeurs, Alex Villard, Axel Vidard, Florence Porcel et Bruce Benamran. Et à cette occasion, Frédéric Fromaine nous a offert une chanson que je vous propose de découvrir tout de suite.
Donc Mathieu Vidard, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi t'as pas invité les champions qu'on attendait? Les deux frères Bogdanov qui eux ont une tête au carré. À leur place, qu'est-ce qu'on a parmi les passeurs de science? D'abord une drôle de nana qui se prénomme Florence, passionnée par l'univers. Ben voyons Florence Porcel, je te signale que la Terre n'en est qu'une toute petite porcelle. Je vous avais prévenu, hein. Il y a aussi Bougrain-Dubourg, je n'ai rien contre évidemment, je suis même plutôt pour qu'il nous apprenne comment esquiver les coups de pelle d'un braconnier en slip. Mais c'est pas ce que j'appelle de la science, c'est du sprint. Dis donc Vidard Mathieu, qu'est-ce que t'as foutu mon vieux? Pourquoi t'as pas invité les champions qu'on attendait? Les deux frères Bogdanov en combinaison d'astronautes. À leur place, qu'est-ce qu'on a ici comme prix Nobel? Nous avons un drôle de gars qui se prénomme Axel. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je vous dis la vérité. Il prétend être Axel Villard, mais son vrai prénom c'est Hervé. Il y a aussi Bruce Benamran qui se présente comme youtubeur. Lui aussi c'est très marrant, je vous raconte le youtubeur. En direct de sa chambre, il poste des vidéos pour expliquer comment s'y prendre avec une meuf à web, bravo. Dis donc Mathieu Vidard, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi t'as pas invité les champions qu'on attendait? Les deux frères Bogdanov qui eux au moins font peur aux meufs. Ouais, sur YouTube on dit meuf. Mais non, bien sûr, pour célébrer les 10 ans sur France Inter, il y a Michel Chevalet pour la soirée anniversaire. Il vaut mieux cette émission, imaginez un peu le clash dans une soirée du Téléthon s'il demandait comment ça marche. Aussi François de Closet qui lança une émission sur Inter au siècle dernier, pleine d'imagination. Fut-il seulement approprié de traiter d'anticipation? Eut-il seulement anticipé la fin au bout de 2 saisons? Enfin, il y a Dominique Dupagne, médecin généraliste. Son CV, je vous l'épargne, disons qu'il fut spécialiste de l'affaire du Mediator. C'est donc à lui que je dois de jouer tous mes accords à la guitare avec les doigts. Dis donc Mathieu Vidard, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi t'as pas invité les champions qu'on attendait? Les deux frères Bogdanov, les seuls à la tête au carré.
Merci, joyeux anniversaire.
Voilà, Frédéric Fromet, c'était hier sur la scène du studio 104 pour les 10 ans de La Tête au Carré. Vous pouvez retrouver toute la séquence bonus dans laquelle figure la chanson de Frédéric en podcastant l'intégralité de la soirée sur franceinter.fr. 2h45 de science et c'est à la page de l'émission.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Allez Cédric, on a du pain sur la planche aussi aujourd'hui à l'Institut Henri Poincaré avec donc ces rencontres des jeunes chercheurs africains. C'est ouvert au public d'ailleurs, on peut aller vous rencontrer.
Absolument. Et sur cette question de développement de la science en Afrique, comme sur plein de questions liées aux sciences, le mot-clé c'est échange. Échange, rencontre, partage.
Alors c'est ça. Quelle est l'idée? C'est la Mécofi pour vous qui êtes là de passage, hein, ce qui n'est pas le cas d'Odette Faucapon, on l'a dit, qui vit en France. Et puis Paul Wafo également qui va rentrer bientôt au Cameroun. Vous allez chercher des idées que vous allez essayer de rapporter en Afrique, de transformer. Comment ça va se passer pour vous alors?
Alors moi je suis plutôt vraiment venu pour mettre sous les yeux de l'université, de la recherche académique, un signal là qui est très fort en ce moment, qui est donc cette mode des laboratoires d'innovation ouverts, qui ont eux-mêmes été créés au début des années 70, quand je pense au hackerspace, par des étudiants. C'était des étudiants qui étaient un peu frustrés, peut-être, de la logique universitaire, de sa fermeture, etc., et qui se retrouvaient dans des lieux. Donc, ce mouvement a grandi. Aujourd'hui, il a des nouveaux moyens qui sont ceux du numérique et qui, je pense, lui permettent d'être quelque chose qui peut reprogrammer la façon de faire de la recherche de façon classique.
C'est une façon de remotiver les troupes, un peu, on pourrait dire, au Togo.
En quelque sorte. Et compenser peut-être aussi quelques écueils que peut avoir l'université et la recherche en Afrique.
Alors lesquels, par exemple?
Son élitisme. La recherche a l'air d'être un peu déconnectée des réalités africaines.
Donc une recherche qui profite plutôt à des gens qui ont de l'argent, par exemple.
Qui profite à des gens qui ont de l'argent et qui est faite aussi par des gens qui ont de l'argent, parce que l'université n'est pas ouverte à tout le monde. Il y a des gens qui ont des accidents de vie, jeunes filles mères, handicap, qui interdisent à certaines personnes d'aller très loin dans l'aventure académique. Mais en Afrique, on se rend compte que c'est ceux-là qui sont dans la marche, qui n'ont pas fait de très 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 longues études, qui sont les plus innovants. Alors comment faire rencontrer à l'université cette masse et cette marge africaine? C'est ce que permet aujourd'hui, je pense, ces laboratoires ouverts sur le modèle des hackerspace ou des Fab Labs.
On va écouter Maurice Twente sur la fuite des cerveaux, justement. Il est professeur d'informatique à l'université de Yaoundé. C'est l'ancien ministre de l'enseignement supérieur du Cameroun.
Une étude récente a montré qu'actuellement, dans les flux migratoires aux États-Unis, c'est l'Afrique qui fournit les migrants ayant le niveau le plus élevé. Et c'est paradoxal de la part du continent qui est présenté comme étant le plus pauvre. Et je l'ai dit là que ça nous interpelle. Et je voudrais prendre un peu à titre anecdotique peut-être, mais l'exemple du football. C'est qu'on a trouvé peut-être des formules. C'est qu'aujourd'hui, les footballeurs africains talentueux, c'est vrai, ils jouent dans des équipes européennes, et nous trouvons ça très bien, mais ils sont en même temps mobilisés dans des équipes nationales pour représenter leur pays. Je crois que ça devrait nous permettre, plutôt que de critiquer la diaspora, de trouver des formules leur permettant, tout en s'épanouissant comme ils le font dans le laboratoire étranger, nous en sommes fiers de pouvoir apporter une contribution à leur pays.
Voilà, Maurice Twente, donc votre ancien ministre de l'enseignement supérieur, Paul Wafo, c'est en 2009, justement. Okay. Vous trouvez cette analogie avec les équipes de sport judicieuse?
Très, très bien faite, et c'est une très bonne analogie. La diaspora africaine dans des pays développés est assez forte. Dans les domaines scientifiques, enfin en termes comparatifs, quand on compare ce qu'on a sur le terrain. Et cet appel du professeur Twente, c'est de faire en sorte qu'il continue à contribuer au développement de l'Afrique. Mm-hmm. C'est-à-dire que pendant que les CEDEC viennent en Afrique, ils viennent avec un ensemble d'Africains qui sont en France et qui travaillent en France et qui participent donc à la formation des Africains sur le plan technologique et sur le plan de la formation théorique.
Mais ce phénomène de fuite des cerveaux, Cédric Villani, il existe aussi en France d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on fait tout pour essayer de retenir nos chercheurs qui peuvent être tentés d'aller travailler à l'extérieur quand même.
On le fait tout, mais en même temps, il faut en avoir conscience. Et c'est un message qu'il faut dire en France, qu'il faut dire en Afrique, qu'il faut dire partout. La démarche de mobilité est naturelle dans la formation. Et on ne conçoit pas aujourd'hui de chercheurs universitaires qui fassent une carrière internationale et qui n'aient pas passé un temps significatif à l'étranger. Significatif, c'est quelques années souvent. Et c'est un enjeu important que d'accepter ça. Et pour l'Afrique, on en a beaucoup de témoignages de gens qui sont partis faire carrière en Europe, aux États-Unis. Et qui, même quand ils aimeraient bien s'impliquer, continuer à s'impliquer en Afrique, ou participer à l'implication dans des colloques, des choses comme ça, trouvent souvent porte close de la part des collègues
qui
leur font comprendre.
Pourquoi ?
Vous êtes partis, vous nous avez laissé nous débrouiller avec les conditions du milieu. Vous êtes des traîtres. C'est souvent ça qui est là, et c'est un enjeu qui est partout important. Accepter que ceux qui sont partis puissent encore continuer à profiter, à venir s'investir. Et l'analogie avec le football qui aura pu, selon les goûts que certains vont trouver très pertinents, d'autres l'ont fait, ça aura fait sourire d'autres, je la trouve très pertinente. En le football, on sait bien, même si tel va partir dans un grand club anglais ou espagnol ou qui sait quoi.
Il va revenir pour jouer avec l'équipe nationale. Voilà. Hein. Ouais. Agnès.
Quels sont les pays vers lesquels sont attirés aujourd'hui les chercheurs africains? Est-ce que, par exemple, les pays émergents leur font aussi des appels du pied?
Comment vous dites? Alors, pays émergents, il y a différentes catégories de pays, je dirais. Il y a des pays classiques tels que États-Unis, c'est clair. États-Unis, il y a une culture d'accueil et d'attirer les cerveaux qui est très claire, très organisée et dont nous devons bien avoir conscience pour mener notre propre politique. Il y a aussi vers l'Europe, bien sûr, de façon générale.
Le Canada qui fait un effort ces derniers temps.
Le Canada fait un effort.
Très ouvert à l'immigration,
tout à fait.
Odette Focapou.
Oui, vous avez demandé quels étaient les objectifs pour ces deux journées. Il y a en particulier un atelier qui sera dédié à la physique expérimentale. Donc, il s'agira donc de démontrer aux jeunes que depuis 2 ans, les outils du numérique permettent de réaliser des dispositifs à bas coût. C'est très important pour pouvoir promouvoir les sciences expérimentales en Afrique. Donc ces jeunes pourront même à partir de la France contribuer, parce qu'aujourd'hui le numérique ne demande pas à ce qu'on soit sur place, qu'on soit localement en Afrique pour pouvoir contribuer. Donc ils vont bien voir à travers les démonstrations telles que l'imprimante 3D ou le fab lab Ecopen va donc faire une démonstration de l'éco-stéthoscope, c'est ça, oui, qui est un outil justement qui provient de la science collaborative.
Et même chose pour les cours à distance avec les MOOC qui explosent en Afrique. On pourra en dire un mot dans un instant. Suite de notre discussion sur les jeunes chercheurs africains en France avec les messages des auditeurs franceinter.fr.
C'est fort où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent.
Le lac avec Julien Doré dans cette tête au carré rencontre de jeunes chercheurs africains et de mathématiciens confirmés comme Cédric Villani, directeur de l'Institut Henri Poincaré, qui accueille donc ces rencontres avec nos invités Odette Focapu, Paul Wafo et Sélamé Kofi. Justement, Sélamé, vous êtes un des pionniers du numérique au Togo et à Lomé, donc vous dirigez ce Fab Lab, qui est le premier espace africain de démocratie technologique, hein, c'est comme ça que vous le présentez. C'est un lieu atypique, à quoi ça ressemble alors concrètement? Parce que là on parle de virtuel, beaucoup. Mais il y a du concret quand même, ce sont des lieux où on se rencontre.
Oui, évidemment, oui. Alors c'est aujourd'hui, ça ressemble à une villa d'à peu près 600 mètres carrés, ouverte à tout le monde, où il y a une communauté d'une trentaine de jeunes à peu près, d'une moyenne d'âge de 19 ans, qui travaillent et développent en communauté des projets en rapport essentiellement avec la ville. Donc c'est un lieu de vie parce qu'il y a 4 ou 5 jeunes à peu près qui dorment sur place tous les jours. Notre spécificité à nous par rapport aux autres tech hubs que vous pouvez rencontrer en Afrique, parce que maintenant c'est vraiment une vraie mouvance, hein. il y en a presque partout, c'est que nous on essaie d'être réellement ouvert à tout le monde. Donc on a dans la communauté pas que des développeurs, des designers, des chercheurs, etc., mais on a aussi une couturière, on a eu un maçon, on a des menuisiers, etc., des gens qui sont décrochés par rapport à l'école, etc.
Ouais, ça c'est important justement, cette mixité.
Oui, c'est la différence avec l'université, c'est-à-dire que c'est un lieu qui vous met dans le concret parce que vous pouvez discuter avec des gens qui sont des gens qui vivraient éventuellement les solutions que vous pouvez vous retrouver à penser un peu trop isolément si vous êtes dans un laboratoire classique.
Le Monde titrait dans un article « Les universités africaines voient l'avenir en MOOC ». Donc ce sont ces l'avenir en MOOC, les cours en ligne justement, qui explosent là aussi en France. Ouais. Ça aussi justement, c'est un très bon moyen, c'est nommé, de pouvoir donner de la connaissance au plus grand nombre et parfois même dans des lieux très reculés des grandes villes africaines.
Mais récemment, il y a eu cette histoire d'un jeune Togolais qui a été le premier diplômé d'un cours prestigieux qui venait juste d'être lancé par une grande université américaine. En tout cas, c'est sûr que c'est la possibilité peut-être d'une vraie équité en face de la connaissance. Mm-hmm. Maintenant, quelqu'un au Togo peut suivre le même cours qu'un jeune aux États-Unis.
Cédric Villani, sur ces cours en ligne, qui sont, alors là, pour le coup, un vrai outil démocratique.
Ils sont un vrai outil démocratique. Il y a effectivement une très forte attente du continent africain et dans les universités des accords et des programmes mis en place. L'avenir peut être en partie en MOOC, mais le chemin est long, et en particulier ce que j'ai pu apprécier aussi de première main, puisque je fais partie des rares enseignants qui ont eu l'occasion de faire un MOOC et de le faire diffuser. Quand il n'y a pas de relais local compétent pour organiser l'accompagnement de ces MOOC, ça ne fonctionne pas.
Ouais. Donc il faut toujours de l'humain, le tissu humain, toujours quand même indispensable.
Justement, en 2015, il y a une conférence à l'UNESCO organisée par la comité nationale de l'UNESCO sur le MOOC en Afrique. Et on a effectivement démontré qu'il fallait quand même un cadre bien approprié pour pouvoir arriver à quelque chose.
Oui. Donc pas seulement laisser les gens seuls derrière leur écran.
Est-ce qu'il y a des diplômes? Ça pose aussi un problème. Comment évaluer les candidats qui se présentent au MOOC?
Agnès Fèvre.
Non, je voulais réagir au Fab Lab dont parlait tout à l'heure notre interlocuteur.
Sélamé.
Sélamé, togolais. On imagine que tous ces développeurs qui sont là, qui sont présents, qui cherchent, qui développent des applications, bien sûr, il y a de la créativité, mais comment se faire connaître? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle étape aussi, un enjeu important?
Non, pas tellement, parce que c'est des jeunes qui sont très connectés. Et les écosystèmes, rien qu'en Afrique, mais aussi avec l'extérieur, sont donc très connectés. Les nouveaux projets diffusent très vite.
Il faut attirer des investisseurs quand même pour développer une application et se faire connaître.
Alors ça, c'est l'étape de scaler. De faire en sorte que son application ou son idée profite au maximum de personnes et si possible de capitaliser dessus. Et dans la culture start-up, évidemment, l'investissement est très important. Mais nous, on essaie d'inventer une nouvelle façon de faire qui nous permet, bon, on appelle ça du bootstrapping, déjà d'essayer de diffuser dans la proximité, de capitaliser dans le très près avant de grandir, etc. Donc ça mitige un peu cette envie qu'on peut avoir quand on veut mettre une solution à disposition de fonds ou d'investissement qui peut être aussi un blocage.
On va écouter Claude Laubry, qui est responsable scientifique à l'INRIA, nous parler de l'importance de l'informatique.
On parle souvent de la fracture numérique. Moi, je ne sais pas, mais quand je suis en Afrique, je suis toujours frappé par le nombre extrêmement important de boutiques dans lesquelles on a accès à Internet. Et ça a vraiment révolutionné la vie des gens, je crois. Plus récemment, maintenant, il y a le téléphone cellulaire qui simplifie considérablement la vie. Et je me rappelle très bien qu'on se posait des questions il y a 15 ans, comment faire des bibliothèques, comment importer des livres avec les problèmes dans les pays chauds et humides. Tous ces problèmes-là n'existent plus. L'accès à la connaissance se fait par Internet. Et donc la situation du chercheur en Afrique subsaharienne a radicalement changé au cours des 10 dernières années grâce à ces outils nouveaux.
Paul Voifaux, pour réagir justement.
Tout à l'heure, Cédric a fait une observation sur le retour des Africains, les scientifiques de la diaspora africaine vers l'Afrique pour accompagner ceux qui sont en place dans la formation des étudiants. Je pense que le cadre, les choses changent de plus en plus. Nous avons de plus en plus de certaines collaborations en termes d'enseignement, en termes de conduite des projets de recherche avec beaucoup d'Africains de la diaspora. Mm-hmm. Ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas un cadre formel qui gère ce retour. C'est des relations qui se tissent entre des scientifiques locaux et puis des scientifiques de la diaspora. Ensuite, par rapport au MOOC, on n'a pas de choix de toutes les façons. La croissance des effectifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est énorme. Les ressources humaines pour l'encadrement des étudiants sont limitées au point où on ne peut qu'utiliser cet aspect-là aujourd'hui pour renforcer la formation des enfants. Et les réseaux de téléphone là, vont nous être également très utiles.
C'est ce que disait justement...
Voilà, nous avons travaillé avec Orange Cameroun ces derniers temps pour voir comment mettre à la disposition des élèves un certain nombre d'informations sur les cours qui reçoivent en classe.
Cédric Villani.
Oui, est-ce qu'il y a... Ce qui est derrière et ce qui est très clair quand on va enseigner en Afrique, c'est en tout cas l'appétit considérable qui est manifesté par les étudiants. Appétit de science qui fait qu'on se sent toujours, quand on est là, extrêmement motivé. Chaque fois que je vais en Afrique, je reviens avec le moral haut.
Et de l'énergie.
Et de l'énergie, absolument. Parce qu'il y a une soif d'accession à la connaissance.
Mais justement, vous qui venez en France pour quelques jours, Sénamé et Paul, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas sidéré par le décalage dans la perception qu'ont les Français de ce qui se passe chez vous sur votre continent ? Parce qu'on est un peu à milieu de sentir justement cette dynamique quand on vient pas en Afrique.
Alors ça dépend. Il y a deux visions. Il y a quand même en ce moment, je le sens très fortement, un certain exotisme technologique. Il y a des gens qui y croient peut-être un peu trop. On voit des Steve Jobs qui fouillent des dépotoirs. On voit des Silicon Valley derrière chaque buisson en Afrique. Donc il y a un excès inverse.
Il y a la Savannah Valley, cela dit.
Voilà.
Au Kenya.
Il y a un excès inverse, mais c'est vrai qu'il y a du potentiel en Afrique qui n'est peut-être pas dont tout le monde ne se rend peut-être pas encore complètement compte en Occident, mais le potentiel ne fait pas tout. Il faut se retrousser les manches et créer les conditions.
Qu'est-ce que c'est la Savannah Valley, Agnès ?
Mais vous pourriez en parler beaucoup mieux que moi.
Très vite.
Un grand hub technologique qui s'est développé au Kenya, qui mise sur notamment l'énergie solaire, tout ce que peut permettre de faire les nouvelles technologies. Récemment, il y a une start-up qui a surveillé l'élection américaine, par exemple.
Ouais. Si je me trompe, il y a un reportage que France 24 a mené au Cameroun, où on avait de Silicon Valley en puissance, en création dans beaucoup d'endroits au Cameroun. Ça va très vite.
Odette Focapu, pour terminer, peut-être.
Moi, je pense que la science collaborative est très importante. qui peut se manifester dans les Fab Labs, ça va donner l'occasion à tout un chacun de réfléchir, de fabriquer quelque chose. Et le plus important, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le fait que ces chercheurs en herbe, ces amateurs de la recherche, ils vont concevoir quelque chose qui leur est utile au quotidien. Mmh. Ils ne vont pas chercher à fabriquer des choses qu'ils n'utiliseront jamais. Et c'est ça qui est important. Donc, ils nous apportent aussi leur propre connaissance. Ils vont dire, voilà, moi, j'ai besoin de tel instrument, ça va me servir à faire telle chose. J'ai besoin de cette somme pour réaliser. Et parfois, c'est pas des sommes énormes. Et c'est là-dessus où la diaspora doit s'intéresser vraiment au Fab Lab, aussi bien au Fab Lab qu'à l'université classique.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup de vous être échappé de l'Institut Henri Poincaré pour passer ces quelques minutes avec nous dans la tête au carré. Mais on souhaitait vraiment donner un éclairage aussi à une certaine réalité de la science sur le continent africain. Cédric Villani, merci beaucoup. Et puis donc, ces deux journées jusqu'à demain sont ouvertes au public pour ceux qui souhaitent aller vous rejoindre. C'est dans le 5e arrondissement.
5e arrondissement, près du Panthéon. Et donc, le siège de l'Association pour la science en Afrique qui organise ceci à l'Institut Henri Poincaré.
Merci beaucoup à tous les quatre.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
De l'Afrique à l'Australie, Dominique Dupagne, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Encore un diabétologue australien, le scorbut serait de retour.
Bah oui Mathieu, j'ai tiqué comme vous sur cette dépêche AFP, largement reprise par les médias. Ma première réaction façon Nelson de Montfort était « What the fuck, quelle nouvelle surprenante !» car le scorbut est réputé avoir disparu depuis un siècle.
Alors rappelez-nous d'abord ce qu'est le scorbut, parce qu'on a un peu oublié quand même.
Eh bien cette maladie est liée à une carence en vitamine C. Nous partageons avec les grands singes, les cochons d'Inde et quelques chauves-souris l'incapacité à synthétiser cette vitamine. Alors heureusement pour nous, elle est présente en abondance dans les fruits et les légumes. Et pour en manquer, il faut des circonstances extrêmes. Même les Inuits sur la banquise parvenaient à absorber suffisamment de vitamine C en consommant intuitivement certains poissons et de la peau de narval qui en contiennent. Mais dans les bateaux des premiers explorateurs, les réserves de légumes étaient vite épuisées et les marins souffraient d'hémorragies diverses, d'une grande fatigue et voyaient leurs dents se déchausser. Voici le scorbut qui est né donc avec la navigation au long cours. Alors, la vitamine C était bien sûr inconnue à l'époque et il a fallu beaucoup de tâtonnements à nos aïeux pour trouver la parade empirique sous forme de jus de citron. En fait, le véritable vainqueur du scorbut est Nicolas Appert qui, en 1800, invente la stérilisation par chauffage d'un récipient hermétique qui donnera la boîte de conserve. Bien que la chaleur détruise une grande partie de la vitamine C, il en restait assez dans les boîtes pour protéger les marins du scorbut. Enfin, la vitamine C est identifiée en 1928 et reçoit le nom d'acide ascorbique du fait de ses propriétés.
Alors revenons en 2016, que s'est-il passé en Australie ?
Alors tout d'abord, il faut préciser qu'aucun cas de scorbut vraiment n'a été constaté. Il s'agit plutôt de carences modérées en vitamine C. Dans une courte communication, la diabétologue australienne Jenny Gunton explique avoir constaté que des diabétiques obèses, qui mangeaient peu ou pas de fruits et légumes, présentaient des ulcères sur les jambes qui ne cicatrisaient pas. Elle a dosé leur taux sanguin de vitamine C et constaté une carence chez certains d'entre eux. Dans la foulée, elle leur a donné de la vitamine C, ce qui a permis de guérir ces plaies chroniques en quelques semaines. C'est une information intéressante, quoique bien sûr très préliminaire, il y avait 10 patients, pour la prise en charge des plaies chroniques chez les diabétiques obèses. Mais elle demande à être confirmée et n'est en aucun cas généralisable. La carence en vitamine C est inexistante chez monsieur et madame tout le monde, d'autant que l'acide ascorbique est présent sous forme de conservateur, code E300, dans la majorité des aliments industriels. Donc non, il n'y a pas de retour du scorbut. Il n'est pas non plus nécessaire ni utile de prendre de la vitamine C si on n'est pas un diabétique de plus de 100 kg dont les plaies ne guérissent pas. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'un diabétique ne doit pas se priver de fruits, bien qu'ils contiennent des sucres.
Voilà, donc cette chronique qui nous disait le retour du scorbut en Australie. Sa conclusion est, il n'y a pas de scorbut en Australie. Merci beaucoup, Dominique Dupagne. On retrouve la page de votre chronique Santé Polémique sur le site de France Inter et les références des publications scientifiques justement que vous citez.